Donc on va pouvoir attaquer un débat donc avec les journalistes de la presse. Je rappelle, il y a Julien Danielides de la Provence, Xavier Guiteau de la Marseillaise. On a Télévision Provence, je me rappelle plus ton nom, je suis désolé. Et Vincent Delpech de Radio Zinzine. Il y a aussi un LCM qui filme pour retransmettre aussi ça sur son antenne. Voilà. Et bien sûr, la salle est invitée à poser ses questions et à ce qu'on échange, parce que c'est... Bon, qui c'est qui commence, peut-être un journaliste? Là, vous n'avez pas de micro, on va prendre, on va mettre celui-là.
Bonjour à tous. Alors, j'ai une question à tous les candidats. On parle beaucoup de la ville d'Aix-en-Provence en ce qui concerne la culture, mais on oublie peut-être les villages du pays d'Aix. Alors, j'aimerais vous demander, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la culture est trop centralisée à Aix? Et quelle place vous laisserez à la culture des villages du pays d'Aix? Et selon vous, quelle est leur marge de manœuvre? Voilà.
Rapidement, je veux dire, il a parfaitement été évoqué tout à l'heure l'idée que on n'est pas simplement sur Aix, mais effectivement dans la communauté, je dirais au-delà de la CPA d'ailleurs. On voit bien qu'aujourd'hui, plusieurs structures telles que des festivals organisent tout autour des petites communes, enfin des petites communes par le nombre, autour d'Aix, des séries de manifestations culturelles. Je crois qu'aujourd'hui, Aix doit avoir la même respiration. On ne peut pas tout concentrer sur la ville d'Aix, mais on peut imaginer à travers ce qui a été évoqué aussi, les réseaux des salles qui existent, dont certaines méritent effectivement d'être améliorées. Mais là, il y a un plan du Conseil général, d'ailleurs, sur l'amélioration des salles sur l'ensemble du département, pour faire qu'on puisse faire tourner des spectacles musicaux, de la danse, du théâtre dans ces salles. Et puis je crois qu'il y a aussi des lieux de créativité qui doivent se trouver dans toutes les autres communes et pas simplement qu'à Aix-en-Provence. On ne peut plus raisonner simplement de façon nombriliste sur Aix-en-Provence. Je crois que ça, c'est tout à fait clair.
Merci. Donc, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, pour nous, c'est très important de évidemment décentraliser la culture et de multiplier les lieux d'expression et de pratique dans chaque zone géographique, dans chaque quartier, donc dans les villages, dans les petits villages. C'est favoriser l'ouverture dans chaque quartier de lieux publics d'accès à la culture, les médiathèques, les bibliothèques, les salles de spectacle, développer dans le cadre communal et intercommunal des lieux d'activité culturelle et sportive, à l'école ou dans des ateliers avec tous les équipements et moyens nécessaires et pas que dans les centres-villes et pas que à Aix-en-Provence.
Il faut qu'on parle aussi d'argent. Hein. Je suis désolé de parler de choses un peu grossières, mais budget de la CPA consacré à la culture, c'est 8 millions d'euros par an. La salle, le Grand Théâtre de Provence, qui est un équipement porté par la CPA, a coûté en investissement tout compris 71 millions d'euros. Et on sait que le budget de fonctionnement de cet équipement, bon, on nous dit que ça va être 5-6 millions d'euros, ça n'est pas vrai. Ça sera plutôt aux alentours de 7, 8, peut-être même 9 millions d'euros de budget de fonctionnement. Donc 8 millions d'euros budget de la culture au niveau de la CPA, budget de fonctionnement du Grand Théâtre de Provence, entre 7 et 9 millions d'euros par an. Donc ou bien ce budget-là incombe exclusivement ou quasi essentiellement à la communauté d'agglomération du Pays d'Aix. Et dans ces cas-là, c'est la question qui a été posée par les 33 autres communes, d'ailleurs. Hein. Quand on a vécu, pourquoi on a voté contre, nous, à la CPA, cette grande salle et la manière dont elle a été conçue quand elle a été transférée à la CPA? Parce qu'on a dit, qu'est-ce qui va se passer dans les autres communes? C'est où ça pompe tous les budgets de la culture au niveau de la CPA, il ne va rester plus rien pour l'ensemble du Pays d'Aix, ou vous nous expliquez que ce n'est pas le cas, et dans ces cas-là, on est prêt à regarder, parce qu'on n'est pas contre cette salle. Bon. Le problème, c'est qu'on n'a pas de réponse là-dessus. Quand je parlais de partenariat tout à l'heure avec les grandes collectivités territoriales, c'est parce que si aujourd'hui le Conseil régional et le Conseil général des Bouches-du-Rhône, les deux grandes collectivités territoriales, refusent pour diverses raisons de venir participer et contribuer au budget de fonctionnement du Grand Théâtre de Provence, il y a un grand risque qu'on assèche toute la politique culturelle dont vous parlez, vis-à-vis des communes et des 33 autres communes du Pays d'Aix. Donc c'est bien une question d'équilibre financier. Alors je sais que certains au premier rang ricanaient ou rigolaient quand je parlais tout à l'heure d'entreprises, de mécénat et de sponsoring. Mais c'est bien de cela dont il s'agit. C'est que ou bien on arrive à faire en sorte de mobiliser d'autres types de financement, de partenariats des collectivités publiques d'abord, mais aussi de faire en sorte que pour les grands événements culturels, partout dans France et dans le monde, aujourd'hui, les grands équipements culturels sont financés de plus en plus souvent par des grandes entreprises, par du mécénat, par du sponsoring, etc. Et c'est ce qui peut permettre éventuellement de dégager un certain nombre de moyens publics des collectivités territoriales pour financer des équipements qui, eux, ne seront jamais financés ou très difficilement par du mécénat, du sponsoring et de l'activité financière privée. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Et je crois beaucoup à cette piste-là de recherche pour donner un peu de marge de manœuvre à l'échelle du pays d'Aix. L'autre chose que je disais tout à l'heure, c'est ce réseau de salles vraiment très important. C'est-à-dire que je suis très frappé dans toutes les communes du pays d'Aix. Allez-y, baladez-vous. Allez à Jouques, au Puy Sainte-Réparade, à Mérargues, à Traits, à Rousset, etc. Et vous serez frappé de voir le nombre de salles et d'équipements qui existent aujourd'hui et qui sont peu ou pas utilisés, en tout cas qui ne sont pas au service d'une politique culturelle. Certainement pas au service des musiques actuelles, mais en plus, même pas au service d'une vraie politique culturelle au niveau de la CPA. Donc ce maillage-là des salles, de l'usage des salles, avec parfois des aménagements qui sont peu coûteux pour insonoriser, pour améliorer, pour donner un peu de matériel dans ces équipements, me paraît une piste de recherche très importante et sûrement moins coûteuse que de créer de nouveaux grands équipements ou de nouveaux équipements culturels.
Alors, si j'écoute effectivement le discours de M. Medvedovski, je peux dire une seule chose, c'est bravo à la municipalité de Marie-Josse-Mazigny. Pour une raison simple, c'est que malgré effectivement la non-participation du Conseil général, dont Alexandre fait partie, eh bien effectivement, les impôts locaux à Aix-en-Provence n'ont pas augmenté. La taxe professionnelle, qui est le budget effectivement de la communauté d'agglomération du pays d'Aix, a baissé d'un point. Et néanmoins, tous ces équipements ont été financés et le financement supérieur donc, des musiques actuelles a été effectué à hauteur de 800 000. Donc, effectivement, je dis bravo Marie-Josse-Mazigny. Maintenant, en ce qui concerne effectivement le financement par du mécénat, par du sponsoring, bien évidemment, c'est une solution qui est une solution rêvée. C'est une solution qui appartient plus, malheureusement encore, à des cultures anglo-saxonnes qu'à celles françaises. Mais je pense effectivement qu'on est en train d'y venir. Et qu'on est en train d'y venir parce que le budget de l'État, effectivement, baisse en raison de la dette publique et de la gabegie financière qui a été celle des 30 dernières années. Les choses étant, recentrons-nous peut-être un petit peu donc sur le premier sujet qui était effectivement la diffusion culturelle au sein de la CPA. Bah, simplement, moi je crois que sous cette municipalité, d'abord il y a eu énormément de lieux qui ont été occupés qui n'étaient pas précédemment. Je pense notamment à l'amphithéâtre de Verdure. Je pense à ce que disait mademoiselle donc, de la LCR concernant les quartiers. C'est vrai que non seulement nous avons essayé d'emmener les personnes qui étaient issues des quartiers sur le centre-ville, je pense à des événements comme ces Sud, mais aussi les gens du centre-ville dans les quartiers. Parce que je pense que c'est à ce moment-là qu'on arrive à un mixage social, bien entendu. Et c'est vraiment ce que l'on recherche au travers de cette politique. Je pense à la mise en place des cirques sur le stade Pratésie, et je pense aussi à De par les villages, c'est-à-dire une fédération de troupes théâtrales qui sont parties et qui ont effectivement couvert la CPA depuis quelques années de représentation. Il y a aussi des décentralisations de festivals de musique, mais ceci, c'est un début. La CPA, il faut bien voir qu'elle est née en 2001 à l'état actuel. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a eu un travail formidable qui a été effectué sur l'ensemble du territoire. Maintenant, il y a aussi une chose dont je voudrais parler, qui est la crainte des associations culturelles aixoises, des associations de musique actuelle notamment, d'être écartées du centre-ville. Et ça, c'est une chose à laquelle il faut faire attention. Parce que quand, par exemple, une association a son berceau dans le centre-ville, on ne peut pas lui dire demain, partez à Vitrolles au stadium. On l'a bien vu. Toutes les hypothèses ont été évidemment évoquées avec les uns, avec les autres. Et nous sommes d'ailleurs, nous étions au moment où la période électorale a démarré dans une démarche de concertation qui, je l'espère, se reprendra donc juste après la période électorale. Mais aujourd'hui, il faut effectivement définir mieux peut-être un réseau de salles, définir mieux un pôle de moyens de mutualisation simplement, ne serait-ce qu'au niveau des emplois et des personnes qui pourraient participer justement à la vie associative et musicale. Mais je pense qu'il y a eu un effort magnifique qui a été effectué et que cet effort va se poursuivre de toute façon. Simplement, il y a des lieux qu'il va falloir restaurer. Nous sommes dans le patio du Bois de l'Aune en train effectivement d'essayer de fédérer et les résidents dont nous avons renouvelé toutes les conventions et les musiques actuelles, l'institut d'enregistrement, une antenne du conservatoire, une antenne du festival d'art lyrique, parce que justement nous voulons montrer que c'est pas parce qu'on habite dans un quartier avec un parc social de logements important qu'on n'a pas le droit de voir effectivement de l'opéra et toutes sortes de musiques qu'elles soient actuelles, qu'elles soient des musiques électroniques ou autres, tout le monde a droit à une culture de qualité à Aix-en-Provence. Et vraiment, c'est le but de cette municipalité. Alors, la CPA est née il y a peu. Nous avons effectué un travail absolument colossal dans ce sens et nous pensons continuer. Maintenant, un lieu comme la Fonderie, par exemple, vient d'être... le problème vient d'être débloqué et nous comptons bel et bien restituer ce lieu à l'association La Fonderie. Voilà. Donc je pense que le programme, c'est quoi ? C'est continuer à faire en sorte et permettre aux associations de musique actuelle et aux associations culturelles en général, effectivement, d'avoir une implantation sur le centre-ville, mais aussi, bien évidemment, de se fédérer et d'aller plus loin sur tout le territoire. C'est une démarche qui a commencé et qui s'est déjà bien amplifiée et qui se poursuivra.
Voilà. Je vais quand même dire un petit mot. Le Grand Théâtre de Provence, le Ballet Presles-Locage, le Festival d'Art Lyrique sont des grosses machines contre lesquelles, encore une fois, on ne s'oppose pas. Mais par contre, on peut remarquer qu'il y a une volonté des pouvoirs publics qui s'est exprimée pendant des 10-15 ans de travail. Je veux dire que quand on pond le Grand Théâtre de Provence, on met autour de la table le Conseil régional, le Conseil général, la DRAC, la CPA, etc., etc. On met tout le monde autour de la table. Ils travaillent pendant 10 ans. Moi, je suis arrivé en 91, avec Aix-en-Provence, les propositions sont claires depuis très longtemps. Une association comme Exquis a été fondée en 1989. On n'a jamais eu droit. Je veux bien qu'on le fasse, effectivement. On a fait 2 réunions à la CPA récemment, enfin, les quelques derniers mois. Mais il n'y a jamais eu de volonté politique avérée, ni par cette municipalité, ni par la précédente, en dehors d'opérations ponctuelles. Donc, ce qu'on demande à un moment donné, parce que nous, on s'oppose à personne. Les artistes, ils se reconnaissent entre eux. La moitié de l'équipe technique du Grand Théâtre de Provence, d'Aix-en-Musique, de Presles-Locage, etc., elle est passée chez nous, elle est passée chez Exquis. Il y en a qui ont été formés d'ailleurs là-bas, chez nous, et chez Exquis. Il n'y a aucun problème. On a fait des concerts classiques, monsieur Posé, à la salle du Bois de l'Aune, notamment avec le Festival d'Art Lyrique et notamment avec l'École de musique du Pays d'Aix. On ne s'oppose à personne. Le problème, c'est un problème de dignité. C'est-à-dire que pour rayonner sur la CPA, parce que toutes les associations qui sont à Aix-en-Live et d'autres ont des opérations sur la CPA, mais à la base, il faut penser que c'est des structures associatives, mais aussi professionnelles. On a fait 290 000 spectateurs l'année dernière, il y a eu 290 000 spectateurs l'année dernière, 880 feuilles de paye sur les 6 associations qui composent Aix-en-Live. On est des entreprises. On ne peut pas exercer notre travail n'importe comment. Et on ne peut pas le faire sans une concertation profonde, large, avec les pouvoirs publics. Et je rappelle que c'est quand même la base du pacte social dans lequel on est. Et là, c'est pour ça qu'on en appelle à la volonté politique et qu'on demande qu'enfin elle cristallise quelque chose. Alors après, les problèmes de mécénat, pas de mécénat, etc., etc., c'est des problèmes qui nous dépassent. Qu'il n'y ait pas d'augmentation des impôts, j'en sais rien. Moi, je serais prêt à payer 10 euros de plus. Je veux dire, si je savais qu'ils allaient aux cultures populaires, moi, ça ne me dérangerait pas. Ce qui m'emmerde, c'est de payer des impôts pour que des ronds-points coûtent 1,5 million d'euros, pour qu'on fasse des trottoirs à je ne sais pas combien le mètre, pour qu'on me dépense 72 millions d'euros, parce qu'on a alerté là-dessus, déjà en 2000, hein, sur le coût du Grand Théâtre de Provence. Ben voilà.
Ouais, on parle depuis tout à Vincent Delpech de Radio Zinzine. On parle depuis tout à l'heure de répartition, de reventiler, tout ça. Mais alors j'entends quand même une chose qui me semble un peu choquante, c'est qu'il semble que quand même le budget du Grand Théâtre, il va rester bloqué. C'est-à-dire on peut pas dire ben non, finalement on donne pas 8 millions, on en donne 4. Et avec 4, vous allez faire un boulot. Enfin, parce que il semble que ce soit bloqué. C'est-à-dire on parle oui, vous êtes bloqué. Il semble que vous soyez d'accord hein, sur le fait de répartir, mais que vous dites pas ben non, finalement on va pas donner ça. Finalement, on ne va pas le donner. Alors, je ne sais pas. Pour moi, ça reste une question profonde. C'est pratique, quoi, ouais. Pour le coup.
Non, non, mais ce que je peux dire sur le sujet, moi, je cite des chiffres qui sont des chiffres que l'on connaît à peu près. C'est-à-dire quand on sait qu'on crée un équipement comme ça et qu'on regarde ce que c'est que le budget de fonctionnement d'un équipement comme celui-là, on sait que ça coûte à peu près tant. Voilà. Et on fait en règle générale un rapport par rapport à l'investissement de départ et on sait que le budget de fonctionnement d'un équipement va valoir à peu près tant par an pour le faire fonctionner. Bon. Ce que je dis à Sophie Joissin, c'est qu'aujourd'hui, parce que aucune des grandes collectivités n'est convaincue par le projet culturel, donc il y a du boulot à faire. Il y a du boulot à faire. C'est qu'aujourd'hui, ni l'État, ni la région, ni le Conseil général n'ont accepté de participer spontanément, volontiers, etc., au fonctionnement du Grand Théâtre de Provence. Donc on a financé, chacun a participé ou a contribué au financement de l'investissement. Mais compte tenu de ce que aucun de ses partenaires n'a été convaincu par le projet culturel de cet objet-là, eh bien les grands partenaires que nous pourrions, que nous devrions avoir normalement pour le faire fonctionner, ne sont pas là. Bon, pour l'instant. Ça va peut-être changer, j'en sais rien, mais pour l'instant, c'est le cas. Donc ça veut dire que le coût de fonctionnement de cet équipement, quel qu'il soit, que ce soit 4 millions d'euros, 6 millions d'euros, 8 millions d'euros, etc., quel que soit le coût de ce fonctionnement aujourd'hui, il est à la charge et il incombe à la communauté d'agglomération du pays d'Aix et donc à travers la communauté d'agglomération, la ville d'Aix. Voilà, c'est uniquement ça que j'ai voulu dire. Bon. Et donc il y a un risque que ça assèche, que ça assèche les politiques culturelles menées par la ville d'Aix et par la CPA. Donc le sujet dont on parle, c'est bien un sujet de rééquilibrage. On ne peut pas inventer de l'argent, sauf à augmenter de 10 euros les impôts de chacun des Aixois. Donc j'ai bien compris que Pépito voulait bien qu'on lui augmente ses impôts à lui. Donc c'est très bien. Peut-être qu'il y en a plein d'autres qui veulent bien qu'on leur augmente les impôts, à condition que ce soit focalisé sur certains types de dépenses. Mais moi, je considère vraiment, avec mon équipe, on considère qu'il s'agit plutôt d'une question de rééquilibrage financier, que ce rééquilibrage financier, il consiste à dégager un certain nombre d'enveloppes financières quelque part pour les réaffecter à d'autres. Bon. Je ferai remarquer quand même que ce qui a été dépensé ces dernières années et ce qui est mis aujourd'hui chaque année dans le CECDC, au patio et dans cet équipement-là, honnêtement, on peut se poser la question de savoir quel a été l'usage ou quel aura été l'usage de ces sommes-là, sur quoi ça débouche, et que là aussi, il y a probablement un peu de marge de manœuvre qu'on peut utiliser pour les relocaliser ailleurs en matière de politique culturelle. En tout cas, c'est notre point de vue. Je parle sous contrôle de Lucien Ambrogiani, qui est au premier rang, qui me regarde.
Moi, la question que je voudrais poser, est-ce qu'un équipement comme ça, comme le Grand Théâtre de Provence, au lieu d'être utilisé quelques jours par an, il paraît que c'est 10 000 euros la soirée de location, il ne pourrait pas être utilisé tous les jours et ouvert justement à toutes les associations qui sont là à des prix compétitifs, disons.
Merci. Donc écoutez, le Grand Théâtre de Provence est un équipement auquel effectivement les collectivités que sont la ville et la communauté du Pays d'Aix participent financièrement, mais néanmoins aujourd'hui c'est un délégataire qui s'en occupe. C'est un délégataire de services publics. Donc c'est lui qui effectue une programmation et ce n'est pas du tout ouvert simplement quelques jours dans un mois, quoi, dans l'année. C'est ouvert toute l'année. Il y a une véritable programmation. Donc aujourd'hui, de toute façon, notre financement public est limité. C'est une salle, effectivement, qui a une grande ambition. Hein, c'est une salle qui a une ambition régionale, nationale et internationale, qui reçoit le Festival d'art lyrique, effectivement, simplement un mois par an. Mais le reste du temps, c'est une salle qui a aussi une programmation. C'est une salle sur laquelle on essaye vraiment d'avoir une politique tarifaire. Enfin, c'est ce dont on a parlé avec le délégataire à l'origine, qui soit aussi une tentative de démocratisation culturelle, avec des prix de place qui soient vraiment à bas coût. Et véritablement, je pense que toutes les cultures doivent pouvoir exister à Aix-en-Provence et que nous devons avoir une grande ambition pour toutes les cultures d'Aix-en-Provence.
Par contre, ce qui est sûr, en tout cas, c'est que toute la municipalité à laquelle j'appartenais voulait un équipement culturel à cet endroit-là. Que cet équipement ne coûtait pas du tout ce prix-là à l'époque. Donc moi, je veux bien qu'il y ait eu des inflations, des dérapages de coûts, des changements de programmation, qu'on a changé la jauge, qu'on a modifié un certain nombre de choses. Mais ce n'était pas du tout dans cette enveloppe budgétaire-là qu'il était conçu à l'époque. Voilà. Et c'était un projet qui était porté par un ensemble de gens qui étaient dans une équipe municipale. Et c'était un projet, d'ailleurs, qui, à l'époque, était soutenu et par le Conseil régional et par le Conseil général. Voilà. Et par l'État, qui était prêt à participer à l'époque au financement et au coût de fonctionnement de cet équipement. Donc qu'est-ce qui a légèrement changé depuis? Je pose aussi la question.
Je dirais aussi que depuis, ce qui a changé, c'est simplement la couleur politique de la municipalité. Et que le conseil régional est à gauche, le conseil général est à gauche, la municipalité de droite, et il y a eu des oppositions, Alexandre, qu'on ne peut pas ignorer non plus.
Non, non, si on est là pour dire la vérité, on dit la vérité. La vérité, c'est que le Théâtre de Provence, il a été voulu par M. Lisner. Bien, on est clair. Pour monter la tétralogie. Bon, arrêtons de raconter quoi que ce soit. Bien, M. Lisner a souhaité, et nous avons appris au conseil d'administration, lorsque le conseil d'administration a été levé, sur une question diverse, qu'effectivement on montait la tétralogie à Aix-en-Provence. Et que pour faire la tétralogie à Aix-en-Provence, il fallait créer un théâtre pour les trois derniers opéras de la tétralogie. Très bien, ça s'est passé comme ça. Bon. Donc au départ, tout le monde a dit, bon, ben, il faudra mettre la main au portefeuille pour effectivement construire un théâtre. Grande bagarre sur la capacité de ce théâtre. Bien. Au début, une capacité extrêmement petite, et d'autres qui souhaitaient qu'on fasse une capacité beaucoup plus grande. Il se trouve que moi, je suis parmi ceux qui considèrent qu'il faut des capacités plus grandes. Car vous n'arrivez jamais à équilibrer une représentation d'opéra par le rapport scène-salle. Les seuls opéras qui s'équilibrent dans un rapport scène-salle, ce sont les Corégies d'Orange, où vous faites 8 à 10 000 spectateurs. Si vous n'avez pas 8 à 10 000 spectateurs, vous n'équilibrez pas une représentation d'opéra, parce que ça coûte très cher. Voilà la réalité. Bien. Il était difficile d'imaginer que le Grand Théâtre de Provence fasse 10 000 spectateurs. Bien, voilà ce qui s'est passé. Et donc, on a construit une salle qui fait 1400 places. Et donc, chaque représentation d'une représentation lourde coûte de l'argent. Chaque fois que vous jouez, vous perdez des sous. C'est comme ça. La région est intervenue à la fois sur l'équipement et elle intervient. Sur le fonctionnement, elle n'intervient pas. Mais sur l'équipement, elle est intervenue. Voilà. Nous ne sommes intervenus ni sur l'un ni sur l'autre. Parce qu'effectivement, il y a eu cette bataille sur le rapport scène-salle. Et ensuite, il y a eu la bataille qu'évoquait Alexandre Medvedevski sur quel est le contenu, qu'est-ce que vous allez faire de ce théâtre. Bon. Aujourd'hui, moi je veux bien, mais on se retrouve avec un théâtre qui fait presque un doublon avec le jeu de paume au niveau de la distribution, au niveau de l'accueil de spectacles, au niveau de ce qu'on appelle le garage. Bien, c'est quand même ça. Oui, non, mais on sait bien que j'ai trois fois la capacité. Mais je veux dire, cuit à ce moment-là, quelle est la définition que vous donnez au jeu de paume? Ce qui est intéressant, c'est de savoir, à partir du moment où on a un théâtre plus grand, mais où on fait les représentations qui étaient dans le jeu de paume, qu'est-ce que vous allez faire du jeu de paume? On ne va pas continuer à avoir le jeu de paume et le Grand Théâtre de Provence faisant les mêmes programmations. On voit bien qu'il faut repenser. Non, mais Sophie, je voudrais terminer. Je veux dire, moi, je veux bien qu'on annonce on est les meilleurs, on est les plus forts. Pourquoi pas? C'est normal. Bien. Mais enfin, on a quand même fermé la MJC. On a fermé la MJC Bellegarde. Le CECDC s'est terminé dans une épouvante financière incroyable. Bien, aujourd'hui, on essaie de rattraper. Enfin, je veux dire qu'on ne vienne pas nous chanter tous les mérites. Et en ce qui concerne la tournée des troupes, et surtout des théâtreux d'ailleurs, sur la communauté du Pays d'Aix, c'est quand même parce que le groupe des 27, à un moment, a imaginé elle-même cette proposition et qu'elle a interrogé aussi bien la CPA que le Conseil Général, puisque là on intervient, bien, sur la diffusion qui est faite par ces compagnies-là. C'est donc pas supporté par la ville d'Aix. C'est supporté par la CPA, par le Conseil Général. Je ne sais pas si la région intervient, peut-être, je n'en sais rien. Mais en tout cas, c'est ça. Et encore une fois, c'est une initiative qui vient d'une initiative associative.
Oui, mais que nous avons aussi, je dirais, incité et favorisé grandement. Grandement, simplement. Alors, moi, je ne dis pas on est les plus beaux, on est les plus forts, les plus intelligents. Je pense simplement que le bilan est un bon bilan. Il y a sûrement des erreurs, bien évidemment. Néanmoins, pour revenir au Grand Théâtre de Provence, c'est effectivement un projet qui a été, à la base, comment dirais-je, évoqué et initié par Stéphane Lisner sous la municipalité précédente. Et alors, ce qui est quand même curieux, c'est qu'on reproche la jauge de ce théâtre, mais la jauge qui était imaginée précédemment était une jauge beaucoup plus petite. Voilà. Donc, moins coûteuse, mais aussi moins rentable.
Bon, là, dans la figure, quoi qu'il arrive. Donc, ça c'est votre souci. Alors, il y a juste un petit truc, juste deux secondes. On parle d'artistes internationaux, etc. Là, dans le petit film que vous avez vu, il y a Anaïs, qui a construit son album avec Aix-en-Provence à la fonderie, qui était à l'époque fermée, donc avec des bonnets sur la tête et des gants aux mains. Ça a été quand même la quatrième recette SACEM il y a 2 ans. Vous avez écouté Mangou, qui est un artiste qui vient d'Amérique du Sud et qui tourne dans le monde entier. Vous avez vu Moussé Hakim, qui sont des artistes internationaux. Vous n'avez pas eu Amadou et Mariam, qui à l'époque étaient la première vente en France et qui sont connus dans le monde entier. Et vous n'avez surtout pas vu les gens qui ont monté et démonté ces spectacles-là, qui sont souvent des emplois aidés ou des intermittents du spectacle, qui font le double des heures ou le triple des heures pour la moitié du prix parce qu'ils ont envie de le faire. Et nos métiers, il va falloir qu'ils sortent de là à un moment donné parce que c'est plus possible. On va peut-être recadrer, passer la parole à Stéphane. Hervé, vous voulez parler, les journalistes, ils veulent, je ne sais pas.
Ouais, juste pour finir avec l'histoire du Grand Théâtre de Provence, moi, il y a un truc qui me choque là-dedans, c'est que Bluzet, qui est le directeur. Il est directeur de ça, du jeu de paume, du gymnase à Marseille, de ceci, de cela. Donc apparemment, tout le monde l'a choisi comme délégataire. Alors au bout d'un moment, il a 36 000 casquettes. Je ne sais pas trop comment il fait. Enfin, je trouve ça largement scandaleux déjà sur ce point-là. Mais bon, ça mis à part, parce que ça, pour moi, c'est un équipement élitiste quand même, même si on veut y faire... je ne sais pas quel spectacle de variété et absolument pas de la musique actuelle parce que c'est pas un lieu fait pour ça. Au niveau des musiques actuelles et de la culture populaire dans son ensemble, vraiment quelle est la place que vous allez accorder à ces musiques-là et à cette culture-là? Et je fais entre autres référence évidemment aux lieux qui ont fermé comme la Fonderie et le Zigzag qui a été en danger permanent, mais aussi à des actions comme Class Rock, où on sait bien que les finales de Class Rock ont été jetées d'un endroit à l'autre depuis bientôt 15 ans, et toutes les autres et toutes les autres projets populaires et de culture populaire.
Si je peux me permettre. Justement, la place qu'on peut accorder à ces musiques-là, ça se place dans l'optique de répondre aux besoins. Les musiques actuelles, c'est une demande des artistes aujourd'hui. Donc, c'est répondre, nous, ce qui est important pour nous, aux besoins des artistes, des jeunes, de la population, répondre à leurs besoins sociaux en matière de culture. Donc, favoriser leur expression, leur pratique, ceux qui veulent musiques actuelles ou autre chose, en leur mettant des lieux à disposition et du matériel à disposition, que ce soit vraiment une intervention publique de déployer ces moyens-là, matériaux, lieux d'expression, lieux de répétition, pour que chacun puisse exprimer selon ce qu'il a envie. Donc, musiques actuelles ou... autre chose.
Je dirais qu'à l'identique, hein, je veux dire, il faut que à l'intérieur même du conservatoire, et un conservatoire qui doit s'éclater sur toute la ville et au-delà, il puisse y avoir des classes, comme il y a des classes sur la musique électroacoustique, il y a des classes sur des formations qui se font. De même, tout ce qui est musique actuelle doit faire partie complètement et intégrer complètement dans ces structures. Et en ce qui concerne le monde, encore une fois, associatif, qui fait les grands concerts. Personne ne dit ce qu'on vient de ça, hein, de l'organisation des grands concerts qui réunissent, comme on l'a vu sur le film et comme on le sait d'ailleurs, qui réunissent beaucoup de monde et des gens qui participent en plus. Bien, il est tout à fait normal qu'il y ait encore une fois là aussi une politique d'aide sur ces trucs-là. Je veux dire, ça ne change pas. Hein, je veux dire, alors après, vous posez une question. Effectivement, il y a eu un délégataire du service public. Et c'est vrai que ça pose un peu question de voir quelqu'un qui dirige trois grandes structures, disons, et une qui est une petite structure.
Et comment ça se passe pour déboulonner ce genre de choses? Ça semble quand même assez important, excusez-moi.
Il faut connaître les contrats. Hein.
Non, enfin, moi je reviens sur la question précise sur les salles. Donc je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Il faut que d'abord on travaille sur les structures existantes à réouvrir ou à recréer, etc. Donc on a parlé de la MJC Bellegarde. Je pense qu'il y a un vrai projet à faire repartir sur la MJC Bellegarde et que dans ce lieu-là, on peut notamment... travailler sur ce pôle que vous appelez de vos voeux, c'est-à-dire sur cette mutualisation de moyens à mettre à disposition d'un pôle des musiques actuelles. Donc je pense que ça peut se faire la MJC Bellegarde. En tout cas, nous, c'est sur cette hypothèse-là que l'on a travaillé. Réouverture de la Fonderie, je l'ai dit tout à l'heure. Il faut qu'on se pose la question de savoir ce qu'on fabrique du patio et de la salle du Bois de l'Aune, en sachant que c'est un lieu où on a pu penser à un moment donné qu'il pouvait être dédié aux musiques actuelles et où nous, très honnêtement, on se pose beaucoup de questions parce que c'est un lieu à la fois symbolique et très important pour l'ensemble du quartier du Jazz de Bouffant. Et que je pense qu'il est difficile et compliqué de faire de ce lieu quelque chose qui ne soit pas une appropriation ou qui puisse donner le sentiment aux habitants du Jazz de Bouffant qu'il leur échappe. On est en plein cœur du Jazz de Bouffant, d'un quartier de plus de 40 000 habitants maintenant quand on englobe tout ce qu'il y a autour du Jazz de Bouffant. Et le fait que cet équipement-là, au cœur du Jazz de Bouffant, soit aujourd'hui, je m'en excuse, vide de toute occupation. C'est-à-dire, on ne peut pas dire qu'il y a un projet culturel en cours, etc. C'était, quand on va à la salle du Bois de l'Aune, c'est une salle vide où il ne se passe plus rien et où tous les arrière-plans de cette salle ont été dévastés en plus. Et quand on va au patio, c'est à peu près vide aussi. Il y a un échec total des projets qui avaient été mis en œuvre et un gaspillage. J'emploie le mot avec gentillesse mais fermeté quand même. C'est-à-dire, je pense qu'il y a eu vraiment un gaspillage de deniers publics ces dernières années autour du projet culturel ou du pseudo-projet culturel qui avait été monté là-dessus. Bon, donc ça, c'est très important de réfléchir et de travailler avec vous, avec les professionnels, sur la réutilisation de ces lieux-là. Bon, et puis, il y a un autre sujet dont il faut qu'on parle, puisque vous l'avez mentionné dans vos questions, c'est le problème de ce qu'on appelle les manifestations de plein air, hein, jauge plein air ou salle plein air, c'est-à-dire où est-ce qu'on peut organiser des grandes manifestations comme Class Rock pour éviter de les balader aux quatre coins au gré, au fur et à mesure que les voisins ou le voisinage ou se plaint ou les municipalités reculent devant les 12 plaintes des voisins qui cassent les pieds. Bon, donc là, vous le savez, il y a eu un certain nombre de projets envisagés ou de discussions sur la réutilisation de l'ancienne base aérienne au Mille, où on peut envisager probablement d'avoir là un lieu d'organisation de spectacles de plein air pouvant aller jusqu'à plusieurs milliers, probablement 4000, 5000 personnes, j'en sais rien, peut-être plus, je connais pas exactement la jauge qu'on peut mettre là-dessus. Bon, si c'est pas là et si c'est pas sur la base aérienne, dire qu'il faudra qu'on réfléchisse à d'autres lieux dans le pays d'Aix, hein, donc à regarder ce qui peut se passer dans le pays d'Aix, où il y a peut-être plusieurs possibilités. Bon, je me souviens encore qu'il y a quelques mois en arrière, on a organisé un grand concert dans le cadre des festivités cézanniennes à Puy-Loubier. Après tout, pourquoi pas regarder si on ne peut pas aussi utiliser ce lieu-là pour faire d'autres types de manifestations tournées vers les musiques actuelles. Donc, pour nous, priorité d'abord à regarder si on peut monter ce truc que vous appelez de vos voeux à la base aérienne 114, enfin l'ancienne base aérienne, et puis si ce n'est pas possible, de regarder dans le pays d'Aix quelques autres possibilités.
Alors, en ce qui nous concerne, la BA 114, c'est aussi effectivement un lieu auquel on avait pensé, parce que c'est un lieu qui est très logique, bien évidemment. Mais il n'y a pas que le lieu de la BA 114. Il y a d'autres lieux. Il y a, par exemple, et ça je pense qu'effectivement c'est une nouveauté, l'ouverture du parc de la Villa Corsi. Donc, il se situe en face de la cité Corsi, au sein de Jazz Bouffant. Eh bien, effectivement, cette villa, ce parc plutôt, va être occupé par un festival, qui est le Festival Zigzag, normalement, en juin. Donc, c'est en tout cas le projet que nous en avons. Ça veut dire, Ça veut dire quoi? Ça veut dire ouvrir des lieux de culture qui sont dits élitistes à toute la culture. C'est tout. Et ça, moi, je pense que c'est un principe de base. On ne doit pas faire de la musique actuelle uniquement dans les quartiers. On ne doit pas faire uniquement de l'art lyrique au centre-ville. Et voilà, ça, c'est le principe que nous avons. Donc, il y a effectivement la BA 114, il y a l'amphithéâtre de Verdure, il y a le stade Pratesi. Il y a des tas de lieux qui sont occupables, effectivement. Et si on peut effectivement choisir des lieux qui gênent... Il y a aussi le site Vasarely, d'ailleurs. Si on peut choisir des lieux qui gênent moins les riverains, pourquoi pas faire en sorte de satisfaire tout le monde, tout simplement.
Si tu pouvais rajouter quelque chose, au risque de me répéter encore et encore, c'est vraiment oublier tout un pan de la question de la culture que de parler... Enfin, moi, j'ai rien contre ces événements, ces grands concerts, ouvrir ces lieux à tout le monde, mais il y a des tas de gens qui ne seront jamais concernés, même si vous leur ouvrez, même si c'est gratuit, si à la base, on n'a pas développé leurs pratiques culturelles sur leur lieu de vie, qu'on leur a pas donné la possibilité d'un éveil artistique et culturel dès leur plus jeune âge, donc dans les écoles, multiplier les interventions dans les écoles, multiplier les bibliothèques de quartier, les rencontres. Voilà, donc c'est toujours la même chose, mais on ne prend pas en compte des tas de gens, là. Même pour des projets super comme Zigzag Festival, où c'est super parce qu'on fait venir des gens. Alors ça, je tenais vraiment à souligner de faire venir des gens à la ZAC qui n'y mettent jamais les pieds, et puis le faire chez eux, donc, parce que les gens, ils se sentent chez eux, et ça, c'est super. Mais il y a des tas de gens qui ne seront jamais concernés non plus par des grands concerts ou par des concerts de musiques actuelles si on ne leur permet pas de s'intéresser à ça. Voilà.
Alors, juste une chose sur l'enseignement artistique, justement. Nous sommes quand même la première ville en France à avoir fait une convention avec le rectorat pour que les enfants des écoles puissent être concernés lors des grandes expositions pour l'enseignement effectivement musical. Ça s'est vu lorsque Combat s'est venu, ça s'est vu lorsqu'il y a eu la grande exposition Cézanne 2006, où tous les enfants effectivement ont pu bénéficier de visites dans le musée, ont travaillé sur le... Mais oui, Lucien, bien sûr. On travaillait dans leurs écoles sur le sujet. Il y a eu des mallettes pédagogiques qui ont été données. Franchement, il y a eu un véritable effort qui a été fait dans ce sens-là, pour que justement il y ait une ouverture artistique très jeune, le plus jeune possible.
Bon vespre, bonsoir, Hervé Guerrera, Partie Occitane, Listec pour tous. Voilà, j'ai eu la chance d'avoir été un des premiers administrateurs de la MJC Bellegarde. On a passionnément aimé cette maison parce que d'abord c'était une structure socio-culturelle centre-ville assez unique. Elle permettait le mélange de public, hein. On y faisait aussi bien des ballettes que ce qu'on appelait à l'époque les musiques électriques, parce que la MJC Bellegarde abritait dans les années 80 une association qui s'appelait Eureka. J'ai été administrateur de cette structure quand j'ai eu la chance d'être élu de la première municipalité Picheral, et j'ai eu l'extrême malchance de faire partie de la dernière fournée des derniers administrateurs de la MJC Bellegarde. Alors les derniers, je dis ça, mais en Provence et chez nous, on a un mot qui s'appelle la respélide. Ça peut se traduire entre rééclosion et renaissance. On espère beaucoup qu'il y aura d'autres visions de la politique culturelle et socioculturelle. On pourra aller vers cette respélide-là. Mais j'ai une question parce qu'à l'époque, on nous a dit, alors qu'on nous présentait une situation financière catastrophique qui était peut-être qu'un problème que toutes les associations connaissent, un problème de joint financier entre deux périodes de subvention. On va dire, pour dire les choses trivialement, on nous a dit oh, cette structure est pas rentable, c'est un canard boiteux, il faut la fermer. Mais ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, une structure socioculturelle en centre-ville est absolument indispensable. Ça a été dit par l'adjoint à la jeunesse de l'époque, Mme Sanchez. C'était validé par Mme le maire à l'époque, parce qu'il y a eu beaucoup de remous autour de la fermeture de cette structure qui était vraiment indispensable. Or, j'ai une question toute simple, Mme Joissin. 2002, ça a fermé début 2002. 2008, ça fait 6 ans. Où est cette structure socio-culturelle centre-ville ? Merci.
Alors, effectivement, la MJC Bellegarde n'est pas un point qu'on mettra en valeur dans le mandat, parce que dans le bilan du mandat, parce qu'effectivement, ça n'a pas été une réussite. Néanmoins, il y a quand même un projet qui est dessus, sur effectivement la projet. Vous savez, dans un mandat, il y a des choses qu'on réussit et des choses qu'on réussit moins. Il est difficile de tout faire en l'espace de 6 ou 7 ans. Donc effectivement, on a le projet de remettre sur pied la MJC Bellegarde et la structure de la fonderie, bien évidemment.
On a tout fait pour la faire fermer, c'est ça. Il y a un paradoxe, il faut
avoir un micro. Et je signale juste au passage que les personnes qui étaient chargées du dossier à l'époque ne font plus partie de la nouvelle équipe.
Je vais m'adresser à tous les candidats. Là, je suis Alain Juillard, président de la MJC Prévert, donc de ce lieu. Je voudrais vous poser 2-3 petites questions assez rapides. Voilà, tout le monde est d'accord sur le fait qu'il faut mutualiser nos ressources. Donc j'espère que au cours d'un conseil municipal, il y aura une proposition dans ce sens et qu'elle sera votée à l'unanimité. D'après ce que j'ai entendu, ça fait aucun doute. Maintenant, première question, quand ? Parce que j'ai pas envie que... Enfin, d'expérience, je sais que le temps que les élus prennent leur dossier en main, tout ça, on sera en 2012. Deuxième question, vous parlez de concertation avec les associations, entre la ville et les associations. Deuxième question simple, comment ? Quelle concertation ? Et je voudrais dire aussi, quelle concertation avec les autres collectivités territoriales ? Exemple simple, on a obtenu le label espace répétition régionale sans aucune subvention à côté, sans aucune réflexion, sans aucune... Ça nous est tombé dessus presque par hasard. Ce n'est pas forcément des bonnes conditions de travail. Voilà mes deux questions, merci.
Bonjour Anne Matron, je voudrais m'exprimer au nom de l'intersyndicale du ministère de la Culture. Puisque je vois que Sophie Joissin et les deux listes de la majorité présidentielle de Peretti et vous-même, puisque vous avez un grand intérêt aujourd'hui pour la culture, moi je vous suggère de faire une liste, une lettre commune avec François-Xavier de Peretti et Marie Joissin à notre ministre de la Culture pour lui signaler que c'est une situation inédite de la Ve République, c'est-à-dire que vous avez tous les fonctionnaires, tout le cinéma, toute la télévision et tous les artistes qui s'inquiètent de l'existence même de la culture en France en ce moment. Donc je pense que ça serait bien, puisque aujourd'hui vous avez l'air très déterminé pour faire quelque chose. Cet après-midi, vous pouvez faire une lettre à Monsieur Fillon, puisque les DRAC ont reçu la semaine dernière une instruction leur interdisant de passer des conventions pluriannuelles avec toutes les sociétés, toutes les associations et tous les représentants du monde de la culture. Donc vous pouvez prendre votre plume et écrire à M. Fillon tout de suite. Je pense que ça libérerait beaucoup de crédits pour la fonderie, pour les musiques actuelles. Et dernière chose, sur l'idée que les musiques actuelles peuvent vivre au même régime que les autres, je ne suis pas du tout d'accord. Et depuis 1981, j'ai été responsable du bureau du jazz, du rock et de la chanson, et on sait que les musiques actuelles meurent quand elles sont mélangées avec les autres musiques dites musiques nobles. Et sachez aussi qu'en ce moment, 30% du budget de la direction de la musique est consacré à l'Opéra de Paris. Donc là encore, je crois que les musiques actuelles, si elles veulent vivre, si elles veulent exister dans une ville, il faut une spécificité et une survie de ce secteur assurée ni par les maisons de disques, ni par les conservatoires. Elle est assurée par des associations, des artistes et par le service public qui doit les soutenir. Merci et je compte sur vous pour la lettre à M. Fillon.
En tout cas, elle ne sera pas signée conjointement par Marie Joissin et François-Xavier de Peretti.
Bon, je ne voudrais pas me substituer à... Il y a des questions qui ont été posées. Est-ce qu'avant que je prenne la parole, vous souhaitez répondre ? Je peux y aller ? Alors, je voudrais faire deux ou trois remarques. Je voudrais vous dire, Madame Joissin, que vous confondez la masse et l'éducation populaire. Hein ? La masse, c'est envoyer en grand nombre des enfants avec des mallettes, ça c'est du populisme, on dit on en a touché 15 000, 20 000, ça n'est pas de l'éducation populaire. L'éducation populaire vise à rendre autonome individu par individu, mais on sait quand même le sort de l'éducation populaire qui a été réservé dans cette ville, d'une part par votre père il y a longtemps, et par votre maman sur la MJC Bellegarde. Donc je vous invite à lire un certain nombre de toutes petites choses élémentaires sur l'éducation populaire qui vous montreront à quel point vous vous trompez sur un travail de masse et un travail éducatif. Ça, c'est la première chose. J'ai été administratrice du CECDC et je peux témoigner ici du gâchis qui s'est déroulé dans cet établissement. J'ai été amenée, avec le Conseil général, puisque j'étais personne qualifiée pour le Conseil général, à démissionner le 16 décembre 2005. J'ai eu hier un courrier d'avocat de Marseille qui m'interpelle sur une ardoise, elles vont commencer à arriver, de 23 000 euros que le CECDC doit. Et on me dit que puisque j'étais intervenante alors que j'étais administrateur, j'ai été mouillée dans cette affaire. Donc comme j'ai démissionné le 16 décembre parce que je n'étais pas d'accord avec les sommes qui étaient engagées et les procédures qui sautaient par-dessus le conseil d'administration, les décisions étant prises ailleurs, nous avons démissionné avec le conseil général. Donc je suis tout à fait à l'aise par rapport à la lettre d'avocat que j'ai reçue ce matin. Troisième chose, j'ai été présidente du comité de soutien de la MJC Bellegarde. Je suis une vieille dame, j'ai été conseillère d'éducation populaire dans cette ville. J'ai participé à la mise en place du café musique et de l'espace de répétition. On a vu comment ça a été entretenu après. Hein. Sur la MJC Bellegarde, c'est gravissime ce qui s'est passé. Il y avait amplement les moyens de laisser cet équipement en route. Que vous ne soyez pas content de la directrice, ça c'est votre droit. Hein. En plus, elle appartenait à une fédération qui pouvait la mettre ailleurs. On ne détruit pas un équipement parce qu'on n'est pas d'accord avec la direction. C'est pas possible. Ce qui a été fait est vraiment lamentable. Donc, président de ce comité de soutien, j'ai donc eu tous les conseils d'administration sous les yeux. Il y avait amplement les moyens de sauver cette structure. Par ailleurs, ce comité de soutien, on fonctionnait un peu comme les gens qui sont victimes d'inondations. C'est-à-dire, on nous a privés de nos maisons, renseignés par le bâtonnier. Hein. On nous a privés de nos maisons, donc nous devons être associés à la suite, c'est-à-dire le projet socio-culturel dont parlait Hervé Guerrera. On y a mis beaucoup de bonne volonté. J'ai vu votre maman qui a dit « Ah, il faut travailler avec Madame Masson, il faut vite travailler avec Madame Masson. » J'ai vu Madame Sanchez, au bout de 4 ou 5 réunions, j'ai dit à Madame Sanchez « Écoutez, vous perdez l'occasion de travailler avec des gens qui étaient de bonne foi, on a essayé, on ne vous reverra pas. » Mais c'est bien évident que ça, il faut le rendre à la ville. C'est un patrimoine. On n'a pas le droit de liquider comme ça des équipements. C'est à nous. On paye des impôts. Donc, faites attention, quand vous évoquez ces problèmes-là, d'avoir vraiment les pieds dans vos chaussures. Hein. Le comité de soutien, il a existé. Hein, et on a même gardé un peu... Il y avait quelques argent qu'on a transmis à la MJC Prévert parce que quelques personnes nous avaient envoyé un petit peu de sous. Voilà. Pour mémoire, parce que j'ai des cheveux blancs et que je suis ici, je tenais à rappeler ça. Merci.
Bon, alors, comme vous m'interpellez nommément, je vais vous répondre, bien entendu. Vous parliez de la MJC Prévert, de la MJC Bellegarde, pardon. J'ai dit tout à l'heure, effectivement, que c'était pas un projet qui avait abouti sous ce mandat, mais que nous avions un projet, un vrai projet, effectivement, pour la suite, hein, qui soit effectivement un projet, je dirais, culturel et éducatif, je dirais pas socioculturel, parce que j'aime pas ce terme, culturel et éducatif, mais qui soit, comment vous appeliez ça tout à l'heure, entre la masse et le populaire ? Voilà, c'est ça. Donc, ça sera l'éducation populaire. Néanmoins, je ne peux pas vous laisser rayer ainsi d'un trait de plume ce qui s'est passé au musée Granet lors de l'exposition ces années 2006 et dans les écoles. Parce que les enfants ne sont pas simplement... Ça serait mentir que de dire que les enfants sont simplement partis avec des mallettes pédagogiques. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Les enfants ont travaillé au sein de leur classe. Je ne crois pas que ce soit de la culture de masse que de travailler au sein d'une classe. Et ensuite, effectivement, ont eu des parcours pédagogiques dans le musée... Enfin, ils ont pu participer à des parcours pédagogiques au sein du musée Granet et ont pu aussi emmener une mallette pédagogique. Je ne crois pas que vous condamniez le principe forcément de la mallette pédagogique. Bon, le CECDC. Le CECDC, ça a été une expérience. Une expérience qui a vécu, qui a été... Ça a été une expérience. Mais attendez, qui ne se trompe pas non plus quand les seuls auxquels on ne reproche rien sont ceux qui ne font rien. Hein, il y a ça aussi. Je suis désolée, mais au sein du patio du Bois de l'Aune, il n'y avait rien. Nous avons décidé, effectivement, à un moment donné, de faire en sorte de fédérer des associations et que ces associations puissent avoir un projet commun. Bon, il se trouve qu'il y a eu des erreurs, mais qu'il y a eu aussi des réussites dans ce CECDC, que le bilan n'est pas entièrement positif, mais pas non plus entièrement négatif. Et ça, c'est une chose que je ne peux pas non plus vous laisser dire, parce qu'il y a eu, par exemple, l'événement CESUD, qui a réuni beaucoup d'enfants, qui a réuni la compagnie Grenade de Josette Baïs dans la rue, qui a amené, si, bien sûr que si, il y a eu les instants d'été aussi, qui ont été faits par le CECDC. Alors, il y a eu des défauts. Je ne dis pas que le bilan est, encore une fois, totalement positif. Mais néanmoins, ça avait le mérite, je dirais, d'habiter aussi un lieu de quartier, chose que les municipalités précédentes n'avaient pas fait.
Je voudrais poser une question à Mme Joissin d'abord. Oui. Et ensuite, une question plus vaste à tout le monde, parce que je pense que c'est un dossier... assez large sur lequel on pourrait s'étendre pendant des heures, mais on perd peut-être l'intérêt premier de ce débat. Donc d'une part, sur le bilan, vous parlez de réussite qu'on vous évoquait, que vous illustrez par l'exemple du patio, et vous rendez hommage à la fonderie qui s'est bien démené pendant un certain temps, malheureusement de manière infructueuse. Et vous dites qu'elle a dû faire face à une particularité, un contexte institutionnel particulier. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce dont il s'agit d'une part ? Et d'autre part, à l'heure où on est réunis, c'est qu'il y a un réel problème, c'est que ces dernières années, on a pu constater que de façon assez rapide... Il y a beaucoup d'espaces qui se sont fermés, beaucoup d'associations qui ont périclité. Tout le monde s'accorde à dire qu'il y a justement de l'existant pour accueillir des associations et des événements. Cela dit, ils ont tous fermé. Donc concrètement, quelle est votre marge de manœuvre pour effectuer des choses tous, hein, dans la mesure où vous accéderiez aux fonctions ? Et qu'est-ce qui est envisageable pour répondre assez rapidement à la problématique ?
Alors d'abord, lorsque vous dites « toutes fermées », je ne crois pas que toutes les associations aient fermé. Je dirais même qu'il y a eu quand même des réussites, et de vraies réussites. Hein, je pense notamment à Arborescence, qui est devenue seconde nature aujourd'hui, auquel on a donné la possibilité effectivement de faire des concerts sur Vasarely. Je pense à d'autres associations de cirque notamment, qui effectivement ont pu s'installer sur le stade Pratésie, ont pu prospérer. Je pense que le patio avait une vocation aussi de pépinière artistique et que dans ce cadre-là, il n'a pas échoué. Maintenant, toutes les associations n'ont pas non plus, comment dirais-je, malheureusement d'ailleurs, hein, la vocation de durer, parce qu'il y a comme partout, hein, comme dans les entreprises, il y a des entreprises qui vont durer parce qu'elles ont du projet. Il y a des associations qui ne vont pas durer parce qu'elles n'ont pas suffisamment de projets. Je dirais que ça, c'est un petit peu malheureusement aussi la loi du genre. Je crois qu'on a essayé d'aider beaucoup le monde associatif, qui a sûrement encore des progrès à faire, mais que néanmoins, oui, il y a de gros efforts qui ont été faits, bien
les
sûr.
Les projets semblent ne pas manquer, pourtant. Et en ce qui concerne le CECDC, il a englouti des fortunes colossales pour... un résultat qu'on connaît, c'est-à-dire...
Pour créer des événements qui ont lieu dans la ville, dont je parlais tout à l'heure, comme par exemple les instants d'été, comme divers festivals, comme CESUD. C'est un outil qui a fait son temps, qui a eu de bons résultats, d'autres moins bons. Et aujourd'hui, effectivement, si le patio, je dirais, et la salle du Bois de l'Aune sont repris en régie directe par la communauté du Pays d'Aix, c'est bel et bien parce qu'on se rend compte aussi que des associations n'ont pas forcément... vocation à gérer comme ça des lieux publics et qu'il vaut mieux qu'elles y aient, comment dirais-je, qu'elles y soient en résidence, tout simplement.
Dans ce cas-là.
Mais je crois qu'on a quand même eu le mérite de tenter l'expérience.
Oui, mais les associations qui ont été en résistance, effectivement, ont eu du mérite, mais elles se sont vite retrouvées le couteau sous la gorge. Donc, il faudrait peut-être se poser la question des moyens à accorder à tous ces résidents.
Qu'est-ce que vous entendez lorsque vous dites le couteau sous la gorge ?
Elles se sont retrouvées très rapidement face à des difficultés budgétaires malgré leurs efforts et surtout la possibilité de disposer d'un personnel suffisant pour faire fonctionner les lieux et pour organiser des événements.
Oui, mais alors là, je dirais que la question qui est posée aussi ici, c'est quel est le rôle de la puissance publique ? Le rôle de la puissance publique, c'est, à mon sens, hein, et je pense que là, effectivement, on va rencontrer des différences idéologiques, sûrement, le rôle de la puissance publique, à mon sens, est de mettre le pied à l'étrier, mais elle n'est pas de remplacer non plus, je dirais, le monde associatif.
D'accord. Dans ce cas, lorsque vous faites le pari d'attirer de la richesse sur les grosses structures qui ont été réalisées, or, les études montrent que, vraisemblablement, elles risquent de tourner... Non, j'en profite parce que j'ai eu du mal à avoir le micro.
C'est
donc
un dialogue.
Regarde quelques instants, mais...
C'est un dialogue.
C'est vrai que l'intérêt, c'est un peu que...
Que tout le monde, oui.
Parce que c'est vrai que... Bon.
Mais je crois que je suis la seule à droite ici, donc évidemment, ça converge.
Non, c'est pas... Je peux ? Bien.
Moi j'ai c'est peut-être tout. Une question oui. à poser à tous les candidats ici présents. On a eu un problème, là, ces dernières années, de visibilité au niveau de la mairie, au niveau des interlocuteurs. Il y a eu beaucoup d'adjoints à la culture. Ils se sont un peu tous dispatchés. Chacun s'est passé le flambeau. Il y avait, pour les associations, pas forcément un interlocuteur très visible. Je voulais savoir si chaque candidat ici présent allait donner une délégation culturelle à quelqu'un, au moins pendant plusieurs mois, à une seule personne.
Bon, c'est vrai que c'est une question qui s'adresse encore à Sophie Joissin, surtout, mais bon, non, mais ça s'adresse à tout le monde. Non, je pense que l'un des sujets ou l'une des préoccupations, enfin, en tout cas, nous, c'est ce qu'on a senti comme tel depuis 2001, c'est que, justement, à force de morceler, de diviser, d'avoir plusieurs délégations successives qui s'occupaient de morceaux de culture, hein, d'une certaine manière, on a perdu le fil conducteur et on n'a pas eu une véritable politique culturelle pour Aix. Voilà, je crois que le principal Merci. Reproche qu'on puisse faire sur les 7 années qui viennent de s'écouler, c'est qu'il n'y a pas eu une politique culturelle visible, identifiée et cohérente à Aix-en-Provence. Bon, et donc, quand je dis qu'il n'y a pas eu de politique culturelle, il y a même eu... C'est notre point de vue, donc Sophie Joissin le conteste, mais je pense qu'il y a même eu une politique plutôt volontariste de disparition organisée d'une partie des formes de culture et de la pratique culturelle et des activités culturelles de notre ville. Voilà. Et notamment toutes celles qui s'adressaient au quartier, toutes celles qui étaient culture de proximité, toutes celles qui étaient culture du quotidien, qui a des liens à la fois très forts avec l'éducation. Arlette Masson en parlait tout à l'heure, mais qui a aussi des liens très forts avec la formation dont on a assez peu parlé, parce que c'est vrai qu'il y a aussi une revendication de la part des acteurs des musiques actuelles à se dire on est aussi des acteurs de la vie économique, c'est-à-dire on veut vivre aussi
parfois de notre métier, de notre passion, et notre passion est à la fois aussi un métier. Donc il y a l'aspect formation, l'aspect organisation et aide, parce que c'est ça le rôle des politiques publiques. On ne laisse pas les associations se dépatouiller toutes seules dans leur coin. Qu'est-ce que c'est qu'une politique culturelle ? C'est le fait qu'on définisse des axes stratégiques, et dans ces axes-là, l'éducation, la culture, la formation, l'accès de la culture à tous, les lieux de proximité, tout ça, ça fonde une politique culturelle. En tout cas, nous, c'est notre ambition, et ça s'incarnera effectivement dans une délégation à la culture avec un adjoint ou une adjointe à la culture.
J'ai le micro et je vais le prendre maintenant.
Si je peux répondre également, il y a une question qui a été posée à tous les candidats. Moi, je ne vais pas mentir et prétendre être ce que je ne suis pas. Donc, nous, c'est une question, la délégation, qu'on n'a pas encore considérée avec la liste. C'est vrai qu'on a une campagne qui a démarré assez tard. Je ne suis pas politicienne. Je travaille depuis un certain temps maintenant dans le milieu de la culture. Et je pense qu'en tant que citoyenne et en tant que travailleuse dans le milieu associatif et culturel, j'ai mon mot à dire et je peux très bien savoir quels sont les besoins nécessaires à tout citoyen en matière de culture. Nous, ce qui est très important pour notre liste, c'est la consultation et la participation de tous les habitants à la vie politique et à la vie culturelle. Ce que vous disiez, je rejoins tout à fait, il y a un problème d'interlocuteur, il y a un problème de transparence quand on essaye de savoir quel est le budget de la culture à Aix-en-Provence, impossible de le savoir. Quand on essaye de savoir quelle est la part qui a été consacrée sur le site de la ville, le budget municipal, on n'y a pas accès en tant que citoyen lambda. Voilà, donc vrai. Nous, ce sera très important qu'il y ait une consultation et une participation de tous les habitants qui ont leur mot à dire en matière de besoins culturels.
Rapidement aussi, je veux dire, il est certain que la culture a besoin d'une unité. Alors qu'ensuite, il y ait effectivement, je dirais, des responsables par secteur. Si dans la culture, vous mettez également le patrimoine, vous mettez une politique muséographique, vous mettez une politique de la lecture, vous mettez une politique de l'éducation populaire, vous mettez une politique de la musique, etc., c'est beaucoup pour une seule personne. Mais c'est vrai qu'il faut en tout cas une unité de direction. Et donc moi, je crois que ce que nous réfléchissons, c'est effectivement des espèces de grandes délégations qui, effectivement, ensuite se répartissent, mais sous une délégation. Et nous rejoignons tout à fait ce qui vient d'être dit, à savoir qu'il faut d'abord redéfinir une politique culturelle. Certes, la puissance publique a son mot à dire dans l'affirmation d'une politique culturelle, mais c'est à travers le conseil culturel dont nous avons proposé la création que nous entendons discuter avec les structures associatives pour voir effectivement comment redynamiser une politique culturelle sur Aix-en-Provence. Voilà rapidement ce que je voulais dire.
Merci. Donc, moi, j'avoue que je suis assez d'accord avec ce que disait, curieusement, hein, puisque nous ne sommes pas du même bord, mais avec Michel Peuze à l'instant, sur le fait qu'effectivement, il y a des secteurs. Il y a des secteurs très différents. On peut être très bon, je dirais, dans une politique muséale, mais ne rien comprendre en musique actuelle, par exemple. Et l'inverse est vrai. Je veux dire, donc, à un moment donné, je pense qu'il faut qu'il y ait quand même des personnes qui soient plus spécialisées sur divers secteurs. En revanche, il faut aussi, évidemment, une unité. Et ça, c'est ce qui est prévu dans notre programme. Voilà.
Si vous permettez, jusqu'à l'intervention d'Alexandre, il y a un instant, j'allais justement commencer en m'élevant sur le fait que nous n'avions pas prononcé ce terme comme si c'était un gros mot de politique culturelle. Et moi, je voudrais recentrer, mais c'est ce que tu viens de faire, et je t'en remercie pour tout le monde. Ce que je voudrais dire, c'est un certain nombre de remarques qui viennent d'une expérience longue, aussi bien comme celle d'Arlette, comme celle de beaucoup de gens dans cette salle. J'ai fait partie de l'ensemble des expériences aixoises, que ce soit celle du Patio, que ce soit celle du CEDCC, que ce soit de Pays d'Aix Association, que ce soit sur la question de l'administration finale de la MJC Bellegarde. Et je rappelle que j'enseigne les politiques culturelles et l'aménagement du territoire et qu'en 1990, avec un certain Bruno Lyon, à Paris, nous avions lancé un programme qui s'appelait les Cafés Musiques et que j'en suis le copapa. Donc, je pense que sur la question des musiques actuelles, effectivement, il s'agit une fois pour toutes de poser comme il faut les questions sur un plan de politique et de politique culturelle. Oui ou non, est-ce que l'on veut qu'il y ait enfin une politique culturelle à Aix-en-Provence, parce que depuis les années 70, il n'y a plus de politique culturelle identifiée comme telle à Aix-en-Provence. J'en veux pour preuve
le fait de notre absence systématique au niveau national dans l'ensemble des repérages qui ne sont pas des repérages d'opinion, mais qui sont des repérages de diffusion, de distribution, et que nous avons toujours plus de difficultés que d'autres. Ensuite, il y a un certain nombre de points précis qui, ici plus qu'ailleurs, comme d'habitude, font l'objet uniquement d'un problème qui, de toute façon, est humain, qui est celui de personnalité extrêmement forte et qui s'oppose. Vous savez, dans l'ensemble des projets cités et des propos que nous avons tenus tout à l'heure, on ne va pas régler ici des comptes. Il y en a autant pour les uns que pour les autres. Jean-François Picheral, par exemple, est tout au moins aussi responsable que d'autres de la disparition de la MJC Bellegarde. Et nous sommes ici, si nous devons être honnêtes, tout un certain nombre d'anciens administrateurs qui le savons parfaitement bien. En même temps, lorsque Fabrice Lextret, tout jeune chargé de mission du ministre Dufour, porte sur les fonds baptismaux les nouveaux lieux publics de la culture et les nouveaux territoires de l'art, et qu'il veut une expérimentation, nous lui offrons, nous, la ville d'Aix-en-Provence, l'expérience du patio, qui devient le CEDCC, et sur lesquels, effectivement, moi j'en ai été l'un des initiateurs, nous n'avions pas de projet parfaitement défini. Donc, aujourd'hui, il ne s'agit pas de régler des comptes. Aujourd'hui, il s'agit de savoir pourquoi on est là. On a été invité par des gens qui se battent depuis 25 ans pour que dans cette ville, oui, de façon identifiée, alors que dans cette ville, il y a 50 000 jeunes qui vivent, il y ait des musiques actuelles et qu'elles puissent amplement et de façon rayonnante, mieux encore qu'à la télévision, faire en sorte que les gens vivent ensemble et se mélangent. Et c'est ça qui est important. Et moi, je demande, comme citoyen, mais aussi comme professionnel de la culture, comme Anne Matron qui est ici, nous demandons qu'effectivement, il y ait une politique culturelle identifiée et claire, dans laquelle il y ait une place identifiée et claire pour les musiques actuelles. C'est ça qui est exigé et c'est ça que nous demandons. Et pour cela, il faut être clair, très clair. En France, je vais prendre deux exemples. Deux villes de droite, deux villes de gauche. Angers, Annecy. Rennes, Nantes. Pas les mêmes jauges, peu importe. Regardez. Décortiquez leur budget. Moi, c'est mon travail. Entre 22 et 27% du budget pour les actions culturelles et pour la politique culturelle. Un certain Claude Bartolone, que j'aimais bien lorsqu'il était ministre de la ville, a dit « Une politique de la ville, c'est une politique culturelle. » Et c'est l'ensemble de cette transversalité qu'il faut reprendre et mettre en place aujourd'hui. Et après, tout le reste suivra, l'internationalisation et le reste. Merci.
Oui, Lucien Brugiani. Beaucoup de choses que je tenais à remettre un peu au centre du débat viennent d'être dites entre l'intervention d'Alexandre et celle que tu viens de faire. Moi, je crois effectivement que regarder derrière et essayer de mettre des croix dans les choses qui auraient été bien faites par les uns, mal faites par les autres, c'est se condamner tous à ne pas être crédibles au regard des attentes de la population par rapport à une politique culturelle qui soit, comme moi j'ai envie de le rappeler, et ça étonnera peut-être pas tout le monde, que je sois assez d'accord avec le positionnement qui a été pris par la collègue de la liste Aix en Lutte, c'est effectivement qu'encore une fois, quand on parlait de maillage tout à l'heure, c'est avant tout, je crois, dans notre esprit, cette idée qu'on ne sait pas trop ce que c'est la culture. Certains la revendiquent, certains considèrent qu'ils ont la capacité d'estampiller ce qui est persona grata de ce qui n'est pas. Moi, j'ai envie de dire que la culture, pour ce qui me concerne en tout cas, et pour ce qui fait son positionnement dans notre programme aujourd'hui, c'est cette idée que effectivement, il y a des actions pédagogiques aujourd'hui qui passent à côté de la remise en place de l'instruction civique et morale, qui passent à côté du fait de faire que les jeunes se lèvent quand le maître rentre dans la classe, et qui fassent aussi que apprendre la Marseillaise à tout le monde, pour autant, c'est pas donner à des enfants l'envie de se sentir citoyen. Et que pour moi, la culture, et je crois dans toutes ses déclinaisons, alors après, on peut aussi élargir au champ d'un spectre plus large, c'est le graphe à la place du tag, c'est tout un tas de choses, et c'est des expressions. Et je crois que ce dont notre société manque de plus en plus, et à mon avis, tant qu'au moins ce président-là sera aux affaires, on va en manquer de plus en plus, c'est d'espace où on ait l'impression que, à part d'aller d'une catastrophe à l'autre et d'un pouvoir d'achat qui dégringole pendant que le coût de la vie augmente, lui, et qu'il n'y a rien à y faire parce que les caisses sont désespérément vides, moi j'ai envie de dire que la culture, pour moi, c'est un élément qui permet de penser qu'on peut avoir au moins quelque chose qui soit un peu rempli, c'est sa boîte à rêves, c'est sa capacité de savoir que les autres existent, qu'on a envie d'aller les rencontrer, qu'on a envie d'aller écouter d'autres formes d'action culturelle. Et c'est là aussi que je suis d'accord. Effectivement, il faut faire naître le goût de la culture et pas simplement dire aller jusqu'à la culture. Je crois qu'il faut que la culture aille aussi sur des quartiers. Il faut que les interventions de troupes de théâtre qui sont menées sur des quartiers soient prises en compte pour ce qu'elles ont de valeur, c'est-à-dire cette hypothèse qu'à travers une expression, on ne peut pas aujourd'hui penser, il n'y a pas un atelier théâtre qui ne soit pas rempli à peine ouvert. Or, moi, pour essayer de travailler au mieux en proximité de cette population-là, je dis qu'aujourd'hui, la désespérance sociale, humaine, culturelle à laquelle on condamne les populations nous prépare à des lendemains qui vont déchanter de façon cruelle. Et que parler de culture aujourd'hui, quelle que soit son expression, quand on regarde ce qui se passait au Zigzag, le Zigzag, j'étais aux affaires quand ça s'est monté en 98. Et c'est vrai que Jean-François Picheral, en conseil municipal, m'a sorti la seule lettre de quelqu'un qui s'était plaint de cette opération-là. Alors quand on voit ce qu'on a vu tout à l'heure, eh bien, je trouve un peu dommageable quand même que sans qu'il y ait eu de problème, sans qu'on ait pu sentir que les gens étaient mal à l'aise, au contraire, que ça avait généré cette dynamique-là, qu'on vienne me dire en conseil municipal, j'ai une plainte de monsieur machin que tout le monde connaît comme étant le paranoïaque de service dans ce quartier. C'est ça le conditionnement des cultures actuelles, de la musique actuelle, des musiques amplifiées. Mais j'ai envie de dire aujourd'hui qu'effectivement, il y a de la place pour tout le monde et il y en aura d'autant plus, y compris en termes de capacité. Pépito tout à l'heure disait, moi je suis prêt à payer 10 euros de plus. Mais je crois qu'encore une fois, si on donne ce qui doit être la logique d'une ville de culture, une ville de culture, ce n'est pas une ville de magasins de fleurs coupées. Ça doit être une ville où, en permanence, on essaie de tenir compte de ce qui se passe. Et j'ai connu, parce que je suis né ici, que j'y ai toujours vécu, on a fait partir, effectivement, les saltimbanques, on a fermé le studio et le relais culturel, on a effectivement eu, à un moment donné, à se réfugier tous à la MJC Bellegarde, parce que c'est le dernier lieu qui résistait, et puis cette MJC a fermé, et puis la fonderie est close, mais je dirais désespérément close, c'est-à-dire qu'on sent bien que c'est au-delà d'un problème technique. C'est quand même aussi symboliquement quelque chose qu'on n'a pas voulu réfléchir. Donc je crois qu'il faut arrêter de se renvoyer des choses. Personne n'a bien fait ce qui aujourd'hui pour moi est une valeur fondamentale et importante, et ça a été dit tout à l'heure par Pépito, j'y tiens, c'est que la culture c'est un devoir, c'est un service public, et qu'on se doit de donner à des gens la capacité à travers le livre, le théâtre, le graphe, la musique et ce qu'on veut, cette envie de se dire que mentalement, on peut aussi avoir des zones qui permettent qu'on ait le droit de se reconnaître comme des sujets, des individus, et pas des futurs chômeurs, des futurs délinquants ou de futurs travailleurs à qui on va demander de toujours en faire plus pour toujours en avoir moins, quoi.
Alors, j'ai une question justement qui va dans ce sens, puisque vous parlez de culture pour tous. La culture pour tous, ça passe également par le pluralisme des médias, donc ça vous intéresse tous, je pense, qui êtes ici. Moi, personnellement, je travaille pour une télévision locale, donc qui est Télévision Provence, qui est une télévision qui est basée à Aix et qui a la volonté d'être faite par des Aixois, pour les Aixois, et dont la rédaction serait basée à Aix et pas à 200 km, par exemple. Et vous êtes tous pas sans ignorer que pour faire de la télévision, il faut des moyens, notamment par exemple pour diffuser ce qui est fait aujourd'hui, il faut des moyens. Donc c'est une question ouverte que j'adresse à tous les candidats et à leur représentation. Quelle politique vous allez mener effectivement pour les nouveaux médias locaux? Parce qu'aujourd'hui, à titre indicatif, la situation pour par exemple Télévision Provence, pour la nommer, est pour l'instant assez difficile.
Moi, c'était juste pour continuer, parce que quand j'ai entendu l'intervention de Lucien, c'est vrai que sur les valeurs de qu'est-ce que la culture vue comme éducation populaire, comme capacité aux gens de pouvoir décrypter leur quotidien, de comprendre le monde, sur ça, on est assez d'accord. Mais par contre, ce qui justifie qu'on n'est pas sur la même liste, c'est la question des moyens et c'est la question de la stratégie qu'on met pour pouvoir arriver à avoir justement cette culture populaire, cette éducation populaire. Moi, je trouve que ça rentre carrément en contradiction avec l'intervention de M. Medievoski, qui disait que pour dynamiser la culture, il fallait qu'on allait servir de capitaux privés. Et là, pas de capitaux privés, mais de mécénat. C'est la même chose. Le mécénat. Oui, mais pour les grands événements, mais ça pose toujours la question du contrôle démocratique de la culture. Moi, je ne pense pas que des gens, et c'est pareil, enfin, moi, je vois, j'étais étudiant à l'université, j'ai fait la lutte contre la LRU, et c'était un peu le même problème de qui contrôle l'université, puisqu'à partir du moment où les entreprises donnaient des moyens à l'université, on n'avait plus moyen, enfin, on ne pouvait plus contrôler les programmes. Et là, c'est le même souci. Comment est-ce que ça ne rentre pas en contradiction, voilà, ce fait que ce soit les entreprises ou le mécénat, ceux qui ont de l'argent, qui donnent de l'argent, est-ce que ça ne rentre pas en contradiction avec les intérêts de ceux qui pratiquent la culture voilà, quoi. Et sinon, c'est pareil, question des moyens. On sait que c'est vrai que sur la municipalité a quand même a une limite de budget. Ça, on en est conscient. Et nous, par exemple, notre liste, si elle avance un programme assez ambitieux sur la culture, sur le fait qu'on avance que oui, c'est possible de pouvoir faire des maisons dans tous les quartiers, des centres culturels, c'est parce qu'on sait qu'il y a des priorités. Enfin, il y a de l'argent dans le budget qu'on va prendre. Par exemple, est-ce que c'est nécessaire d'avoir une police municipale qui coûte 5 millions d'euros? Et voilà, mais c'est truc. Est-ce que comment. La question des moyens, nous on sait que Aix est une ville riche et qu'on va pouvoir prendre de l'argent où il y en a pour pouvoir le redistribuer. Et c'est ça, quoi. Où vous allez chercher les moyens pour appliquer une telle culture?
Médias et sur l'usage de vos médias, je pense qu'on a tous conscience que justement le dialogue avec la population, l'accès à l'information, le fait qu'on ait besoin de plus de transparence, de démocratie locale, démocratie participative, etc., nécessite qu'on fasse appel aux nouveaux médias et qu'on les encourage et qu'on les développe. Bon, donc, je pense que la télévision et ses modes de diffusion qui vont avec, hein, parce qu'aujourd'hui, les chaînes de télévision, que ce soit la vôtre, au Pays d'Aix TV, etc., sont pas des modes de diffusion comme TF1, évidemment. Hein. Bon, donc, ça veut dire qu'il y a diffusion par Internet, qu'il y a toute une série de choses à faire. Donc, moi, j'y suis, évidemment, au nom de ma liste, tout à fait favorable à l'encouragement et au développement de ces moyens-là. Bon, en sachant que le risque ou la crainte qu'on peut avoir, c'est que il y a petit à petit une pluralité, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de prendre des initiatives et de monter des nouveaux médias de cette manière-là, et que donc il faudra qu'on se pose la question tous ensemble, en discutant, en dialoguant, de savoir comment tout ça est organisé, qui fait quoi, est-ce que c'est une liberté totale et on aide tout le monde, voilà. Et ce que je sais en tout cas, c'est que j'ai pas du tout envie que ça devienne des médias qui soient soutenus, aidés et financés uniquement par les collectivités locales et territoriales, parce que sinon se posera la question de votre indépendance très vite, et que je pense que ça serait un risque très dommageable. Voilà. Et la tendance lourde des politiques, c'est d'être avis, hein, évidemment, de ce genre de choses, en disant « Tiens, chic, je vais avoir ma télévision locale, ou je vais avoir mon machin, ou je vais avoir mon bidule. » C'est pas trop notre truc.
Sur ce point, je crois que parfois les journaux suffisent. Mais ce que je voulais simplement dire, c'est qu'à mon avis, cette question se pose au niveau de la CPA. Et je pense que c'est à ce titre-là qu'il faut l'envisager.
Alors, moi, j'avoue que j'ai un petit peu la même opinion qu'Alexandre Wedowski sur cette question. C'est-à-dire qu'évidemment, il faut faire attention à ce que les médias ne deviennent pas uniquement des outils du politique. Et à partir de là, il faudra faire attention. Mais oui, c'est aussi un vrai problème. Si vous avez une collectivité, par exemple, comme la communauté du Pays d'Aix, qui est à droite, ou bien comme le Conseil général, qui est à gauche, qui prend la main financière sur un média, qu'est-ce qui va se passer? Oui, peut-être, mais là, on pose justement le problème du financement, justement, de cette télévision. C'est pour ça que je pose, moi, le problème de la démocratie. Et de dire, il faut que les médias puissent être indépendants. Donc, je pense que pourquoi pas, effectivement, aider financièrement les télés. Mais en même temps, je crois qu'il va falloir prévoir autre chose, c'est-à-dire des chartes qui permettent qu'elles soient effectivement indépendantes et ne dépendent pas totalement des collectivités.
Excusez-moi par rapport à ça. Oui, voilà, il faut faire la réflexion à votre
leader
Maximo quand même.
Je pense qu'on va arrêter le débat parce qu'effectivement, il y a d'autres choses. Je vais vous faire une petite 2 secondes de lecture qui va mettre tout le monde d'accord. Vous savez qu'entre 40 et 45, il y a eu comme une petite guerre mondiale, quoi. Et qu'en France, on a posé le système dans lequel on vit sur la base d'un pacte social qui a été tiré de l'expérience de gens qui ont notamment résisté à travers le Conseil national de la résistance. Donc j'avais préparé un truc que je n'avais pas lu, mais là, la conclusion, elle me va parfait.
J'ai un petit extrait. Au moment où nous voyons remis en cause le socle des conquêtes sociales de la libération, nous, vétérans des mouvements de résistance et des forces combattantes de la France libre, 1940-1945, appelons les jeunes générations à faire vivre et retransmettre l'héritage de la résistance et ses idéaux toujours actuels de démocratie économique, sociale et culturelle. Un peu plus loin, nous appelons enfin les enfants, les jeunes, les parents, les anciens, les grands-parents, les éducateurs, les autorités publiques à une véritable insurrection pacifique contre les moyens de communication de masse qui ne proposent comme horizon pour notre jeunesse que la consommation marchande, le mépris des plus faibles et de la culture. L'amnésie généralisée et la compétition à outrance de tous contre tous. Nous n'acceptons pas que les principaux médias soient désormais contrôlés par des intérêts privés, contrairement au programme du Conseil national de la Résistance et aux ordonnances sur la presse de 1944. Plus que jamais, à ceux et à celles qui feront le siècle qui commence, nous voulons dire avec notre affection, créer c'est résister, résister c'est créer. Et donc c'est signé par un ensemble de résistants qui sont les gens qu'on monte au pinacle maintenant, mais dont on oublie un petit peu les enseignements régulièrement et que je soumets à votre sagacité avant qu'on aille boire un petit coup dehors.